Les rendez-vous de Bernard Roth, Senior Advisor IEIF et membre de l'Académie d'architecture.
Alors Clémence Béchu, c'est l'âme scientifique de la quatrième génération Béchu, d'agence Béchu. Et moi, j'ai eu la chance d'en connaître trois sur les quatre. Mais elle n'est pas architecte, c'est ça qui est original. Elle a fait des études d'économie à l'université Panthéon-Assas, de finance à Paris Dauphine, également des études de chinois, je crois qu'elle parle chinois, et puis des études de management de projets internationaux à l'ESCP. Elle a été conseil en stratégie chez Capgemini Consulting. Elle a développé une start-up qui est toujours en grande activité, qui s'appelle Wine Sitting. Et puis, elle a finalement décidé de rejoindre l'agence paternelle et de ses associés comme directrice du développement et de l'innovation. Elle est également partenaire de la Société française d'urbanisme. Clémence Béchu, bonjour.
Bonjour Bernard.
Vous avez déclaré beaucoup de choses, mais j'ai notamment noté, je cite, « Il est désormais acquis que la santé et ses formes plurielles, psychologiques, physiologiques, sociales, soient désormais pensées comme le cœur de la mutation sociale et urbaine, et non pas comme une charge. » Alors, ceci me conduit à plusieurs questions. D'abord, pour vous, que nous apprend la nature par rapport à la transition climatique, cette nature qui, au fond, était jusqu'à présent plutôt ornementale et plutôt un décor dans lequel l'homme se sentait comme au théâtre, entouré de jolis paysages ou pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de changé ? Qu'est-ce qu'elle nous apprend ?
Alors, cette en nature, quelques mots. Cette nature ornementale pour l'homme, en fait, elle était remise à cette fonction unique et évidemment trop réduite lors de toutes ces dernières années, en fait, qui correspondent à toute la phase d'industrialisation de l'économie et du capitalisme. Et c'est vrai que on se rend compte aujourd'hui qu'on a besoin de revenir un petit peu en arrière pour retrouver un petit peu comment nos anciens se comportaient avec elle en faisant pleinement partie et en remontant en fait à ce que c'est que la nature à l'origine et à sa source. Alors donc l'origine de la nature, elle remonte en fait à 3,8 milliards d'années. Notre espèce Homo sapiens et la lignée d'ancêtres dont nous sommes issus finalement depuis le début du paléolithique n'en représentent qu'une infime composante, puisque l'humain est apparu il y a seulement 300 000 ans. Hein, on n'existe que depuis 300 000 ans. Quand on met ça en perspective de 3,8 milliards d'années, on voit bien qu'on est une petite goutte d'eau dans l'océan. Et en fait, on a été, nous les hommes, naturellement dotés de facultés intellectuelles qui nous ont permis de remonter en amont de la chaîne des prédateurs, hein, et d'avoir cette position-là aujourd'hui dans la chaîne du vivant. Mais en surestimant sans doute notre capacité à pouvoir nous détacher de cette chaîne à laquelle on est finalement intrinsèquement et vitalement liés. En protégeant pas l'ensemble des maillons qui composent le cycle du vivant et en nous croyant comme une sorte d'extrapolation de ce monde dont on a tant besoin, on a non seulement créé des dégâts sur notre environnement, mais nous nous sommes mis nous-mêmes en danger. Et donc cette ère de l'urbanocène dans laquelle le monde est entré révèle ce grand déséquilibre, parce que le destin de nos villes est devenu finalement le destin de notre planète, quelque part. La croissance des villes, sans stratégie écologique au sens propre du terme, a engendré des espaces qui sont devenus dangereux pour les habitants, pour tous les habitants, qu'on parle des urbains ou même du monde vivant qui habite la ville, parce que la ville ne peut plus assurer sa fonction première d'habitat et donc de protection. Et c'est vrai que la crise d'habitabilité dans laquelle on est rentré, elle est terrible, mais je pense qu'il faut la mettre en perspective de tout ce que la ville a aussi à nous offrir. D'autant plus qu'elle restera a priori encore longtemps l'habitat principal d'Homo sapiens. On y trouve, s'y révèle dans cette ville les plus grandes tensions du siècle, hein, qu'on parle de tensions sociales, économiques, environnementales ou sanitaires. Mais c'est là aussi que se préparent, on est en perspective de ça, les réponses à tous ces nouveaux défis planétaires qui sont essentiels à la réconciliation de notre espèce désormais urbaine avec son environnement naturel. Un environnement qui, quand on l'observe, sait s'adapter au changement climatique, et ceci depuis toujours. On le voit en ce moment, par exemple, chez certains escargots européens, dont la couleur a muté du brun au jaune pour s'adapter à la chaleur, ou chez l'écureuil roux, qui a modifié son calendrier de reproduction à cause des températures printanières plus élevées. On constate aussi en ville que certains oiseaux changent le niveau sonore de leurs cris pour s'adapter à la pollution sonore, malheureusement. Mais ils savent s'adapter. Et en remontant plus loin, et ça je fais référence à un article que j'ai lu il y a 2 mois, je crois, c'était au moment de Noël, dans la revue Science, sur une découverte qui a été faite récemment par des paléontologues au Nevada, concernant l'analyse d'un crâne d'ichthyosaure de plus de 2 mètres de long. Ce qui sous-entend en fait un corps de plus de 16 mètres de long. Et il s'agit en fait d'un dinosaure poisson qui date de l'ère du Trias, qui a suivi la première extinction massive liée à un changement climatique. Et en fait, dans cette découverte et cette analyse, ce qui a interpellé les scientifiques, c'est le fait que l'évolution de la taille de cet animal en gigantisme, hein, on qualifie ça de gigantisme, s'est faite en moins de 2,5 millions d'années. Ce qui correspond à moins d'1% de la période du Trias qui a duré 150 millions d'années. Et quand on regarde plus récemment les baleines, par exemple, qui ne sont qu'énormes, elles ne sont pas gigantesques, pour atteindre cette taille énorme, il leur a fallu plus de 90% de la durée de leur histoire. Cette découverte pour les paléontologues et puis pour l'ensemble des scientifiques, elle est majeure parce qu'elle démontre une fois de plus la grande faculté qu'a le vivant à rebondir après des événements climatiques dramatiques, une fois que des conditions environnementales sont redevenues favorables.
Oui. Ouais. Mais alors, si on constate que le vivant, au fond, sait s'adapter à ces changements climatiques, à ces incroyables changements climatiques au long des périodes que vous décrivez, la ville, on a bien l'impression qu'elle ne sait pas très bien s'adapter, par contre, à cette transition. Alors, d'abord, pourquoi est-ce qu'elle ne s'adapte pas? Pourquoi est-ce qu'elle ne sait pas s'adapter? Et puis, quelles conséquences sur la fabrication de la ville? Comment faut-il raisonner maintenant?
Oui, tout à fait. Alors, en fait, ce qu'il faut réussir à retrouver, compte tenu de ce que la nature a à nous apprendre, c'est une certaine forme d'humilité face aux défis climatiques. Et se dire qu'en observant le vivant, son intelligence, ses liens d'interdépendance, on replace finalement l'humain à sa propre place, c'est-à-dire vivant parmi les vivants, et non pas vivant au-dessus d'une sorte d'abstraction que serait le vivant autour de lui. Alors, comment est-ce que ça se passe pour la ville? Ce qu'il faut se dire, enfin l'idée de base, c'est de se dire qu'à l'image de la nature, la ville et ses composantes doivent devenir écosystémiques pour développer la capacité de notre espèce, donc désormais urbaine, à mettre en place des bonnes méthodes et des bonnes pratiques pour s'adapter, voire anticiper le changement climatique et ses effets, comme le fait la nature depuis si longtemps. On parle d'approche biomimétique, qui a été reconnue comme étant le continent caché de l'innovation par notre président de la République lors des dernières assises de la mer, qui se sont tenues à Nice en septembre dernier. Cette approche biomimétique, c'est vraiment un driver de l'innovation. On le voit au travers de nombreux secteurs, hein, outre ceux qui concernent la ville directement, comme le secteur médical, aéronautique, tout ce qui se fait aussi en matière d'intelligence artificielle. Tout ça, c'est la biomim deep tech, dont la croissance en France sera de plus en plus exponentielle et qui offre un avenir fantastique pour toutes les entreprises qui vont se créer. Et donc, adapter cette approche en considérant la ville comme un corps vivant, et non seulement essentiel à la survie de la biodiversité, mais aussi de notre espèce, qui en l'état urbaine, une fois de plus, ne sait pas s'adapter. L'idée étant donc d'intégrer le fonctionnement de la nature au sein de la ville, pour la rendre capable d'accueillir un climat qui change, et donc de protéger ses habitants, afin de générer un milieu qui soit à la fois vivable, leur permettant d'y trouver un abri, mais aussi de s'y développer en bonne santé et pleinement épanoui. Alors, penser la ville comme un corps vivant, c'est d'abord se donner comme règle de le faire à chaque échelle, en se posant à chaque fois la question de quel service mon bâtiment, ma rue, les matériaux que j'emploie, l'usage que je développe va pouvoir apporter à son environnement. On appelle ça l'approche par les services écosystémiques rendus. C'est une approche qu'on développe notamment, nous l'agence, auprès du CIEBIOS, donc qui est le Centre européen d'expertise en biomimétisme, au sein d'un sous-groupe que j'ai participé à cofonder qui s'appelle le Biomim City Lab, et qui, avec certains autres acteurs de l'immobilier, en fait, on s'attache ensemble à développer des outils très opérationnels pour favoriser le développement de la ville biomimétique. Et donc, penser cette ville comme un corps vivant, c'est ensuite la concevoir comme un habitat, comme un écosystème, capable d'accueillir une multitude d'habitats qui eux-mêmes composent les uns avec les autres. Avec certes des éléments solides qui la composent, tous ces pleins, les bâtiments, enfin tous les éléments auxquels on peut penser, mais aussi et surtout tous ces vides. Des vides dans lesquels il est essentiel de composer majoritairement avec la nature, en végétalisant pour stimuler la biodiversité, la laisser s'épanouir, et ainsi profiter de ses bénéfices actifs, de ses bienfaits actifs, au-delà de ses bénéfices, de ses bienfaits ornementaux dont on parlait au début, pour que des liens sociaux s'y créent, pour qu'on puisse y développer aussi des programmes pédagogiques, pour que la nature puisse aussi avoir son rôle d'îlot de fraîcheur si essentiel aux chaleurs caniculaires de l'été, et pour profiter aussi de tous les apports de production vivrière que la nature peut apporter. Donc cette ville écosystémique, c'est la ville biomimétique, une ville qu'on aura remodelée en allant plus loin que d'intégrer la végétation, mais en la reconnectant pleinement à la nature, parce qu'on l'aura réintégrée dans les grands cycles du vivant. Et c'est aussi une manière de répondre à un autre enjeu très, très lié, qui a autant d'importance, qui est celui de la ville nourricière. Parce que quand on y pense, 70% d'un monde devenu urbain, à horizon 2050, ça implique aussi que 70% de la nourriture au monde sera consommée dans les villes, et avec des implications non négligeables, évidemment, en termes de qualité de nourriture même, d'approvisionnement logistique et évidemment d'empreinte carbone et de santé.
Dans plusieurs de nos entretiens, on a eu l'occasion d'évoquer l'idée, au fond, la ville, c'est peut-être le métabolisme avant d'être la morphologie. Au fond, c'est un peu ça que vous dites d'une autre façon, si je comprends
c'est
bien.
C'est ça, exactement. Ouais, c'est vraiment l'approche qu'on cultive au travers de nos projets autant que possible. C'est d'avoir un projet qui est un projet architectural qui, en fait, suit l'aboutissement d'une réflexion et d'un process. Plus que de composer une morphologie et une identité visuelle avant tout.
D'accord. Alors il y a quand même un domaine au plan de l'urbanisme, c'est tout à fait clair. Au plan de l'architecture d'un objet architectural, c'est peut-être moins évident. Comment ça se traduit ça finalement pour la fabrication du logement? Et d'ailleurs, quand je dis logement, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux dire habitat?
Oui. Alors cette question, faudrait dire habitat. Et d'ailleurs, moi, je pense qu'on devrait d'ailleurs dès l'enfance à l'école offrir aux enfants, donner aux enfants des cours d'habiter, parce que c'est finalement l'un des besoins fondamentaux de l'homme. Et nos enfants habitent dans des villes dès qu'ils sont petits. Ils font partie de ce monde de l'immobilier. Et on devrait leur enseigner ce que c'est qu'habiter. Habiter sous un toit, mais c'est aussi habiter avec les autres, habiter avec la nature. Voilà, enfin, ça, c'est un autre sujet dont on pourra encore parler longuement. Mais
oui, mais il est formidable, parce que c'est eux qui habiteront et c'est eux qui fabriqueront en partie, pour certains d'entre eux, la ville de demain.
C'est sûr. Donc, d'autant plus que cette question, elle est évidemment... cette question, elle est fortement liée et corrélée à la santé de tous. Et en fait, ce qui est intéressant de se dire, c'est de revenir à ce qu'est l'habitat d'Homo sapiens à l'origine. Quand on repense aux hommes dans leur grotte, l'habitat, c'est la relation que Homo sapiens a avec son écosystème, et donc les échanges symbiotiques qu'il opère avec lui. Et donc à partir de là, une nouvelle définition de l'habitat urbain, qui ne se limite pas au logement de chacun, et pour participer à l'habitabilité de tous, doit pouvoir intégrer certaines particularités issues de la campagne, par exemple, qui manquent à la ville. Le besoin de présence de nature, de plus de douceur, le besoin de retrouver un rapport au temps plus en phase avec soi-même, avec une urbanité dans laquelle on va pouvoir continuer à conserver, à cultiver la proximité de services, la proximité de personnes. Et c'est là où, en fait, la ville a un avenir. C'est que c'est pas seulement lié au fait que la croissance urbaine va de toute façon continuer de façon exponentielle. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est en ville que l'homme, que les humains peuvent y trouver, y fabriquer des liens sociaux, et ces liens sociaux qui sont aussi essentiels à sa pleine santé. La ville, c'est un lieu où on demeure, on y travaille, c'est un lieu où on doit pouvoir prendre du plaisir, où on doit pouvoir s'amuser, où on doit pouvoir se cultiver. En fait, elle est l'essence même de l'urbanité. Et donc, il est essentiel, au travers de l'habitat, de réussir à faire progresser le cheminement intellectuel que revêt cette notion d'habitat, pour passer d'un « j'habite là parce que c'est chez moi » ah, je me sens bien, donc c'est là que j'ai choisi d'habiter. Je pense qu'il faudrait se changer un peu la façon de réfléchir l'habitat en se disant, moi, mon objectif, c'est de donner envie aux gens d'habiter là parce qu'ils s'y sentent bien. Et si on remonte un petit peu en arrière, c'est une citation que j'aime bien proposer du philosophe allemand Heidegger qu'il avait écrite dans son essai « Bâtir, habiter et penser », qui avait été publié en 1951 lors de la crise allemande du logement. Heidegger disait la chose suivante « Habiter ne dépend pas seulement de l'habitabilité d'un logement ou de la qualité architecturale d'un bâtiment. Ce sont certainement des conditions favorables, mais l'essentiel est ailleurs. Cet ailleurs consiste à vivre au plus près de soi, avec et parmi les choses et les humains, en prenant soin du déjà-là, sans abîmer le monde. » Et ça sous-entend le fait que l'habitat doit finalement ménager son monde. Et voilà, et donc ça nous mène à penser, à projeter la projection d'un mode de vie plus urbain, qui serait une contraction entre le rural et l'urbain, et qui, à l'interface entre ces deux extrêmes, transformerait une tendance actuelle qu'on sent hein, en profonde comme socle d'une réalité commune partagée. Voilà, et je pense que l'ultra-digitalisation et l'accélération exponentielle aussi de tout ça va permettre de favoriser la création de ce mode, de cette ville plus urbaine, finalement.
Merci beaucoup, Clémence. Je crois que vous nous mettez sur le chemin d'apprendre à contrôler, à maîtriser les formidables outils qui, effectivement, s'offrent à nous désormais et qu'il ne faut surtout pas laisser prendre une partie de notre place. Merci et à très bientôt pour reparler plus en détail cette fois de la question de santé que vous avez évoquée à plusieurs reprises. Merci.
Les rendez-vous de Bernard Roth, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.